Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face.
Place maintenant à l'invité d'André Berkoff sur Sud Radio. On accueille tout de suite Benoît Duteurtre, journaliste, producteur à France Musique de l'émission Étonnez-moi Benoît, auteur de romans, d'essais et de ce livre qui nous intéresse aujourd'hui, Les Dents de la Mer, M-A-I-R-E, Souffrance d'un piéton de Paris. C'est publié aux éditions Fayard.
Et oui, Benoît Duteurtre est un excellent romancier, un très bel écrivain. Et justement, quand on m'a annoncé Les Dents de la Mer, je me suis dit, par Benoît Duteurtre, il a fait un tour des océans, est-il allé en apnée? Non, pas en apnée juvénile, mais quand même. Eh bien, pas du tout. C'est Les Dents de la Mer, effectivement, M-A-I-R-E, Souffrance d'un piéton de Paris. Et je dois dire qu'étant moi-même parisien, et on est un certain nombre de centaines de milliers, voire de millions, je dois dire qu'un certain nombre d'entre nous, et on n'est pas partageons la souffrance du piéton de Paris. Benoît Duteurtre, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre ?
Ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est que je suis le prototype du bobo en théorie, parce que je vis dans le centre de Paris, je travaille dans le milieu culturel, je n'ai pas de voiture, je ne conduis pas, donc je devrais être objectivement, d'après le discours de la mairie de Paris, quelqu'un qui bénéficie pleinement de cette politique et qui en est vraiment, comme si la mairie travaillait pour moi. Or, il se trouve que depuis quelques années, depuis 6 ans et même un petit peu plus longtemps, ma vie parisienne est une vie avec beaucoup de souffrances ordinaires, des petites choses, mais une vie quotidienne qui se dégrade. Et donc, j'ai voulu montrer dans ce livre que ceux pour lesquels la ville prétend se battre, en fait, peuvent aussi être les victimes de cette politique démente, notamment dans la matière de circulation.
Tout à fait. Et vous le racontez très bien, je dois dire que l'introduction de votre livre en disant « Écarte-toi, connard, t'es une surpiste cyclable », et puis la trottinette qui faille vous écraser sur le trottoir et à tout, c'est vrai.
La mairie appelle les circulations douces.
Oui, douces, j'adore.
La douceur, absolument. C'est l'insulte.
Écoutez, en arrivant ici au studio de Sud Radio, Benoît, j'ai eu l'illustration de votre livre. Je veux dire, c'est un chemin du combattant, être piéton. C'est-à-dire d'arriver à un truc, il faut éviter cela. Je ne parle pas des cars de touristes et des voitures, vous en parlez dans votre livre, mais en fait, et sous prétexte donc de soi-disant de dépolluer, on pollue absolument tout le monde.
Voilà, et on pollue d'autres façons. Sont pas seulement la question de l'air, encore que, parce que j'habite moi au centre de Paris, il faut bien dire la réalité, en tout cas là d'où je suis, mais c'est un livre très subjectif, où je raconte mon expérience de Parisien.
Absolument.
Et donc, là, au centre de Paris, tout ce qu'on a retiré de circulation sur les berges s'est répandu en haut et s'en sort comme ils peuvent, tous ces malheureux automobilistes. Donc, le boulevard Saint-Germain est plus embouteillé qu'il n'a jamais été. Les quais de l'Hôtel de Ville sont plus embouteillés qu'ils n'ont jamais été.
Ouais.
Donc, en réalité, dans le centre de Paris, il y a une dégradation. Alors, la ville va toujours vous dire, ah oui, il y a moins de pollution en bas sur les berges. Heureusement, il n'y a plus de voitures. Mais en haut, il y en a largement autant. Et puis, il y a une concentration de la pollution par le ralentissement de la circulation. Et il y a aussi ces autres formes de pollution qui sont notamment le bruit. Parce que, par exemple, tous les véhicules de secours qui autrefois s'écoulaient relativement facilement, notamment par les voies sur berge, ils sont eux-mêmes coincés avec les autres. Alors ce sont des sirènes, des bruits, une tension permanente, une tension qui a envahi ce beau cœur de Paris.
Et non seulement ça, mais vous dites, et cette tension réagit sur la population. On voit bien, les gens sont là, ils font attention, ils sont stressés, les gens. Je parle même des piétons que soi-disant un Hidalgo veut défendre.
Mais le piéton, c'est la victime numéro un, parce qu'en fait, elle, ce qui l'intéresse, c'est la roulette.
Hein, oui, absolument.
Que ce soit la roue de bicyclette ou la roulette de la trottinette.
Je me demande si c'est pas la roulette russe. Hein.
La créature à roulette est devenue l'incarnation du développement durable. Voilà, donc à tous les droits d'une certaine façon. Le piéton, lui, c'est une espèce de vieille chose qui avait réussi, à mon avis, à cohabiter avec l'automobiliste.
Ouais.
Il y avait une espèce de partage du
exact.
Terrain qui fonctionnait à peu près. Nous, on a le trottoir, vous avez la chaussée. Même si on ne s'aimait pas beaucoup, ça marchait. Mais maintenant qu'on nous a pris la moitié du trottoir, quand ce n'est pas davantage pour faire circuler les deux roues, ce n'est pas simple.
Et en plus, et vous le dites aussi, c'est qu'ils brûlent les feux rouges. Enfin, il n'y a pas de problème, il n'y a rien.
Le développement durable à roulette n'a aucune loi, puisqu'il va sauver la planète. Donc, il a le droit de rouler à contresens sur les passages protégés, contre les feux rouges et sur les trottoirs. Et non seulement il le fait de façon illégale, mais par ailleurs, la mairie l'encourage encore plus. Par exemple, pas loin d'ici, là, sur le quai de New York, vous pouvez voir que le trottoir a été divisé en deux. Donc, la moitié du trottoir, mais là sans faire vraiment une piste, la moitié du trottoir est devenue une piste, et le piéton, il lui reste une espèce de toute petite bande de terrain.
Ah oui, vous voulez dire la moitié du trottoir a vraiment été divisée en deux.
Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Et le piéton doit se serrer entre le bord du quai et puis la file pour les deux roues. Il lui reste comme ça une espèce de petit passage où il peut encore essayer de survivre. Et pourtant, pour moi, Paris, c'est la ville du piéton. C'est la ville de la promenade. C'est aussi la ville, d'ailleurs, des transports en commun, parce qu'il y a ce jeu entre le métro, le bus, pas la voiture, pourquoi pas un peu le vélo, et le trottoir, et le plaisir de déambuler dans Paris, qui, là, on a beaucoup perdu, à mon avis. C'est pour ça que j'ai fait ce livre.
Et non, c'est fou. On reste avec vous, et on reste avec vous, parce que nous serons les derniers résistants piétons. Ton de Paris avec Benoît Dutertre, avec Les Dents de la Mer, après ceci.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, le face-à-face.
Et on continue avec Benoît Dutertre, écrivain, journaliste, vous écoutez à France Musique, Étonnez-moi Benoît. Et Les Dents de la Mer, c'est vrai, c'est un livre que je vous recommande vraiment sur les souffrances des piétons de Paris. Je vous assure qu'elles valent celles de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas s'il prend la voiture ou pas, Jean-Luc Mélenchon, quand il est ici. Mais nous. Et il se passe quelque chose. On a parlé justement des souffrances, enfin, de la relégation du piéton, il faut le dire, Benoît Dutertre. Mais parlons aussi de l'aseptisation de Paris, de la mondialisation, entre guillemets, et de la désantification, en partie, heureusement. Il y a encore beaucoup de choses de Paris.
Oui, d'ailleurs. Dans ce sens-là, c'est un sujet qui dépasse même Paris. Hein. Sont toutes les grandes villes qui, d'une certaine façon, sont peu à peu rachetées par les marques mondiales, les enseignes. Et d'ailleurs, je dirais, là, pour le coup, c'est pas seulement Anne Hidalgo ou la mairie hein, qui en sont responsables. C'est un phénomène de l'époque. On a un peu l'impression, maintenant, quand on se balade dans certaines rues des centres-villes, et notamment de Paris, d'être un peu dans une galerie marchande, avec cette succession de logos, d'enseignes, toujours les mêmes, de marques de vêtements, de nourriture rapide, etc. Dans les gares, maintenant, c'est aussi pareil. On est au milieu de tout ce monde des marques qui a envahi la ville. Et là encore, quand on aime Paris, quand on aime la poésie de Paris, quand on aime la richesse du petit commerce parisien, qui avait été, il faut le dire, relativement bien défendu du temps où la droite était au pouvoir, même s'il y a eu aussi beaucoup de destruction de Paris d'une
bien
autre
sûr.
Façon.
Enfin, il y avait encore le petit commerce.
Il y avait le petit commerce. Ouais. Et aujourd'hui, moi, chaque fois que je vois fermer une épicerie ou un bazar qui devient Daily Monop ou qui devient une autre marque, Starbucks, etc., je suis désolé, parce que là, Paris perd aussi beaucoup, évidemment, de son caractère.
Non, mais regardez l'île Saint-Louis ou l'île de la Cité, quand même.
Oui, alors il y a aussi le côté, alors la touristification, c'est le deuxième élément, c'est Paris bazar à touristes. Alors, il se trouve que moi j'habite Île de la Cité, alors les gens disent toujours, ah oui, tu vas pas te plaindre puisque tu habites Île de la Cité, mais non, il y a un quartier tout à fait normal et pas si riche que ça dans l'Île de la Cité, du côté de la rue d'Arcole où j'habite depuis très longtemps, et j'ai vu le quartier effectivement se transformer en bazar à touristes, où les vrais bistrots de quartier sont devenus des bistrots, vous savez, où les vendeurs sont déguisés en français, du Beaujolais, arrête les gens sur le trottoir, un peu comme à Pigalle.
Juste c'est ça, avec les nappes à carreaux.
Mais il y a pire que ça, et ça j'en parle dans mon livre. La ville, par exemple, a un grand projet de touristification de l'île. Il y a un énorme projet qui avait été présenté par François Hollande et Anne Hidalgo. Et là, alors il s'agit de transformer carrément toute la place du Parvis Notre-Dame, c'était avant l'incendie, mais le projet est toujours dans les cartons, en grande base touristique où les touristes arriveraient avec des galeries commerciales qui vont occuper une partie de l'Hôtel Dieu. Il s'agit de recouvrir le marché aux fleurs d'une cloche de verre, une idée de Dominique
le
Perrault.
Le marché aux fleurs, bravo,
ouais, voilà.
Qui est un des plus beaux endroits de Paris.
Un des plus beaux endroits de Paris, etc. Et tout ça, alors la ville aujourd'hui prétend, parce que c'est la campagne électorale, qu'elle va lutter contre le tourisme. Sauf que l'augmentation du tourisme, ça faisait partie des projets affiché de la ville au cours des dernières années, et on le voit aussi avec ces autocars pour touristes qui embouteillent partout Paris. On s'en prend beaucoup aux conducteurs d'automobiles individuels, mais le rôle de ces autocars de marque, parce que là encore c'est des marques rouges, verts, etc., avec leur logo, dans la pollution de Paris est très très grave. Et ça, on pourrait faire quelque chose. Moi chaque fois que je me suis promené dans n'importe quelle ville du monde, j'ai toujours pris les transports en commun de la ville, parce que c'est comme ça qu'on découvre une ville, etc.
Oui, mais alors il vous dirait, alors on vous dira, Benoît, Benoît Dutertre, oui, oui, vous êtes gentil, Benoît, mais ça fait travailler le tourisme quand même. Ils sont des 70 millions à venir tous les ans à Paris. Ça fait travailler le commerce, ça fait travailler l'économie. S'il n'y avait pas les touristes, qu'est-ce qu'on ferait?
Oui, je ne suis pas sûr que le touriste qui fait Paris dans la journée en autobus, Paris, Euro Disney en général, c'est deux étapes qui se suivent. Hein. Il y a quelquefois Versailles en plus, qui va s'arrêter une heure dans un quartier de
Oui, il ne va pas flâner, vous voulez dire.
Non, il ne va pas flâner, il ne va pas rentrer dans Paris, il ne va pas faire marcher le vrai commerce parisien. Enfin, je sais pas. Ouais. En tout cas, tout ça n'est pas très drôle.
Voilà. Mais est-ce que c'est... Alors, à votre avis, quand même, l'avis d'écrivain et du journaliste, est-ce que c'est une volonté réelle d'aseptiser? C'est quoi? C'est que, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne comprend pas, sous couvert de dire, mais oui, le piéton, l'écologie, etc., on est en train de vider de sa substance une ville. Et la ville, c'est 2000 ans d'histoire, hein, c'est Lutèce, c'est tout cela. C'est pourquoi?
Mais je crois qu'il y a le problème de fond, c'est que nos élus parisiens, en particulier la maire de Paris, d'une certaine façon, se prennent aujourd'hui pour des prophètes. Ils ne sont pas là pour gérer la ville, ils sont là pour assurer le bien de l'humanité. C'est pour ça que moi, je dis dans vos livres, j'aime bien un maire modeste qui va se contenter de rendre la ville agréable, praticable, circulable et tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Là, non, la mairie, elle travaille pour sauver l'humanité. Elle ne cesse pas de le dire. Et chaque Parisien doit être enrôlé par ce combat municipal au service de l'humanité tout entière.
En fait, c'est Greta Thunberg à l'hôtel de ville. Quoi.
Absolument. Et d'ailleurs, bon, finalement, c'est quoi l'horizon que nous donne la ville dans ses documents de com et dans ses discours? C'est « Ah oui, vous allez voir, Paris va être beaucoup plus doux, ça va être beaucoup plus agréable à vivre. » Mais la réalité, c'est qu'on a vécu 6 ans de chantier, d'enfer, de travaux, etc., au nom du bien qui viendra peut-être un jour. Et là, maintenant, Anne Hidalgo, dans la campagne électorale, nous dit « Ah non, 6 ans, c'est pas assez pour mettre Paris à l'heure de l'écologie. Il faut encore 6 ans d'adaptation de la ville. » Donc ça fait 12 ans de souffrance de moi, pauvre Parisien, dans l'espoir que peut-être cette ville va devenir enfin, à l'horizon, plus écologique et plus humaine.
Et
c'est
attendez,
beaucoup 12 ans dans une ville.
On dit maintenant, mais vous avez vu quand même pendant une période, les travaux, il y avait 7000 chantiers dans Paris. 7000 chantiers.
Mais alors ça, c'est aussi le côté très pervers de cette politique, parce que je crois que, me souvenir quand même, j'ai assez bien observé depuis fort longtemps, que les chantiers, autrefois, étaient quand même contrôlés par la municipalité. C'est pas nous les chantiers, il y a les câbles, il y a les machins. Mais c'était quand même contrôlé par la municipalité pour se produire à des moments favorables, pour ne pas être mis en place pendant des mois alors que le chantier n'a pas démarré, ce qu'on voit souvent dans Paris, etc. Ça arrivait aussi pendant les vacances, on faisait des chantiers qu'on faisait pas en période de grande activité.
Aujourd'hui, tout le temps.
Parce que la mairie a un projet qui est même pas caché, qui est avoué. Elle veut pourrir la vie des automobilistes.
Mais c'est ça.
Donc c'est quelque chose d'assez pervers. Pour faire le bien, là encore, on va rendre votre vie impossible.
Et d'ailleurs, on a dit ici, dans Berkham, dans Sud une merveilleuse vidéo d'Anne Hidalgo au moment des feux de fin d'année. Là, elle disait, alors qu'est-ce que vous prouvez aux taxis? Il dit, c'est très simple, les taxis, ça va être très bien pour vous. On va supprimer toutes les voitures. Comme ça, les Parisiens vont être obligés de prendre des taxis. Elle l'a dit avec un grand sourire.
Comme ça, bah oui. Peut-être qu'il y aura des subventions pour prendre le taxi. Et puis, on voudrait tous aussi nous faire monter sur des vélos. Moi, j'ai vu un jeune bobo qui était indigné de ce que je lui disais. Il me disait, mais enfin, les gens n'ont qu'à prendre le vélo. Mais tout le monde n'a pas envie de prendre le vélo. Les vieux, pour ne pas dire, politiquement correct, n'ont pas envie de prendre le vélo. Les femmes enceintes n'ont pas envie de prendre le vélo. Les gens qui... puis moi, d'ailleurs, je n'ai pas envie de faire du vélo. Je n'ai pas envie d'entrer dans cette aussi... Vous savez, ça rejoint la logique de l'entretien de soi, tout ça.
Oui, c'est ça. Le développement personnel.
Le vélo, c'est pas...
Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est ça. Mais je crois que là, vous avez raison, et vous en parlez dans votre livre. C'est voilà, on veut sauver l'humanité, on veut jouer les prophètes, etc. Mais ce qui est terrifiant...
Le quotidien ne compte pas, en fait.
Ce qui est terrifiant... Et puis, on a oublié de parler quelque chose. Hein, 6 milliards d'euros de dette, la ville de Paris.
Bien sûr.
Pas mal. 6 milliards d'euros de dette, ce qui n'est pas rien.
Pour une ville qui a toujours été riche et jamais endettée pendant très longtemps.
Hein. Je veux dire, jusqu'à Tibérie, c'était pas endetté. Après, bon, on va pas rentrer dans les querelles droite-gauche, mais enfin, le petit quand même.
Mais moi, j'aimais bien chez Tibérie ce côté, il était maire de Paris, il n'était pas sauveur de l'humanité.
Ouais,
voilà.
Oui, absolument. Voilà. Ce qui n'est pas... Et dites-moi, et qu'est-ce que... Alors, vous, écrivain... que pensez-vous de... Est-ce qu'il y a encore, justement, c'est peut-être pas lié, mais quand même, on a l'impression que sans dire, c'était mieux avant, mais que même la vie intellectuelle, la vie littéraire, qui sont dans les cafés, il y en a encore, mais on a l'impression que c'est plus du tout la même chose. Benoît, je sais pas ce que vous...
C'est-à-dire que, pour ce qui est de ce qu'elle appelle la culture, la ville s'est donnée aussi une nouvelle mission, qui est d'organiser des grandes fêtes.
Oui, c'est
des
ça.
Des fêtes à l'extérieur. Ouais. Ils se prennent, je crois, un peu brésiliens d'ailleurs. Il y a souvent des tambours
c'est
brésiliens.
C'est la technoparade.
Voilà.
Pride,
alors, c'est la technoparade, ouais. C'est la gay pride, c'est beaucoup d'autres encore. Mais c'est aussi. Moi, j'habite donc près de l'hôtel de ville. Et c'est tous les jours sur le parvis de l'hôtel de ville. Il y a une fête, une célébration, la journée de l'eau, la journée de l'air, la journée de l'Europe, la journée des femmes. Au Champ de Mars, c'est un peu pareil. Il y a une espèce d'animation de l'extérieur permanente pour englober voilà, les Parisiens dans ce festivisme. Comme disait Philippe Muret.
Ouais.
Pour moi, là encore, le rôle de la ville, c'est pas ça, c'est pas d'organiser des fêtes dehors partout, c'est simplement d'assurer la vie des théâtres, des cafés, des lieux qui ont toujours accueilli la vie intellectuelle sans que la ville ait besoin de s'en mêler et de se transformer en organisateur, en gentil organisateur de spectacles.
Et dans le même temps, dès qu'une boîte de nuit veut s'ouvrir, on dira attention, vous faites du bruit, fermez à minuit ou à 1h du matin. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a ce côté, nous qui avons connu le palace et les bains douches.
Et
hein,
voilà,
quand même,
et la bohème qui restait encore un peu autour des Halles.
C'est vrai qu'il y a une volonté d'aseptisation. Et alors, que pensez-vous de quelqu'un qui me disait, mais vous savez, depuis que, bon, et c'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'interdire de fumer, mais depuis qu'il y a tous ces règlements un peu hygiénistes, est-ce que ça a perdu aussi de son éclat ou pas, à votre avis ?
Bah, vous savez, j'aime beaucoup le système japonais dans ce domaine. Vous savez, au Japon, on n'a pas le droit de fumer dans la rue, mais on a le droit de fumer à l'intérieur.
C'est pas mal.
Il y a juste des petites zones, donc les trottoirs ne sont pas envahis de mégots, ouais. Etc. Et puis les gens ne sont pas là comme s'ils étaient traqués pour aller fumer leurs cigarettes dehors. Donc il y a des petites, toutes petites zones fumeurs sur les trottoirs extérieurs, avec des cendriers. D'accord. Et par contre, à l'intérieur des cafés, etc., parce que c'est une habitude, une tradition. Bon, beaucoup d'auditeurs ne seront pas d'accord, mais enfin, on laisse faire.
D'accord. Mais c'est bien. Et dites-moi, vous avez eu déjà des réactions de la mairie ou autre sur votre livre?
J'ai eu quelques réactions de quelques personnes qui sont dans la campagne électorale, pas du côté d'Anne Hidalgo, mais...
Comment réagissent-ils, oui?
Bah, écoutez... du côté des Républicains, j'ai eu des contacts qui étaient assez sympathiques, je dois dire, mais qui n'ont pas été plus loin que ça. Après, moi, je vais vous dire, je suis pas dans la campagne... Je raconte ma vie quotidienne dans ce livre de piéton, je raconte une évolution générale, d'ensemble.
Oui, mais on est en pleine campagne électorale.
Et je ne crois pas, malheureusement, ouais. Que, en tout cas, pour parler de ceux dont on parle le plus, ouais. Que ni Benjamin Griveaux, ni Cédric Villani vont aller à contre-courant de cette campagne. Au contraire.
Ce qui est effrayant dans cette campagne,
c'est qu'ils veulent tous, ils veulent aller plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont cru comprendre que le vélo s'était branché, ils veulent faire encore plus de vélos. Et maintenant, comme vous savez, Benjamin Griveaux, lui, il veut carrément supprimer la gare de l'Est.
Absolument.
Pour créer un Central Park à la française. Alors j'adore toujours ces références.
Et Villani, c'est la gare du Nord.
Et Villani veut mettre la gare du Nord en Seine-Saint-Denis. Tous ces gens n'aiment pas Paris, parce que Paris, c'est une merveille de cohérence et d'architecture. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Haussmann, il a fait une œuvre étonnante. Bien et sûr. Supprimer ces gares qui font partie de l'architecture même de Paris, de sa composition, avec leurs brasseries, avec les quartiers adjacents, c'est vraiment prouver qu'on ne comprend pas et qu'on n'aime pas Paris.
Benoît Dutertre, en fait, ça nous ramène effectivement, il y a les problèmes de la France et les problèmes de Paris qui occupent votre livre, et encore une fois, que je recommande parce que vous l'avez traité avec beaucoup d'humour et beaucoup de style, mais enfin ça, ce n'est pas étonnant. Mais en revanche, est-ce que franchement, et une question que je vais vous poser, vous, Parisiens, vous ne trouvez pas... pas normal que les Parisiens ne votent pas pour le maire de Paris, puisqu'ils votent pour leur maire d'arrondissement. Et comme vous le savez, c'est un peu comme aux États-Unis pour les grands électeurs. Il y a un troisième tour à Paris, comme à Lyon, comme à Marseille d'ailleurs. Il n'y a pas qu'à Paris. Lyon et Marseille, c'est la même chose. Où effectivement, on vote pour son maire d'arrondissement. Et c'est les maires et les conseillers municipaux qui votent pour le maire de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Oh bah effectivement, je trouve le système parisien un petit peu compliqué, puisqu'on sait que on peut être maire en ayant moins de voix que son adversaire.
Ce qui a été le cas d'Anne Hidalgo.
Ce qui a été le cas. Donc c'est effectivement une exception qu'on comprend pas très très bien. Mais bon, les édiles parisiens ont toujours joué avec ça, y compris d'ailleurs Madame Hidalgo, qui tout d'un coup a décidé que 4 arrondissements historiques ont chacun leur mairie, leur histoire. Moi, je suis attaché à l'histoire de Paris. Je suis désolé. Tout d'un coup, voilà, on décide qu'il y a plus que ça formera plus qu'un seul arrondissement, mais je crois que ce sera plutôt favorable et au camp de l'hôtel de ville, voilà. Mais ce que je voudrais dire aussi, juste en un mot, c'est que j'entendais tous ces auditeurs de toute la France, et notamment du sud de la France, comme il se doit, c'est que vraiment, il y a un truc aussi dans l'histoire de France, c'est que le modèle parisien a tendance à s'étendre partout. Vous savez, au 19e siècle, toutes les villes créaient leur boulevard haussmannien, leur gare avec leur brasserie, etc., jusque même en Afrique du Nord. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai parfois l'impression que le modèle parisien de l'espèce de fanatisme de la transformation de la ville au nom du développement durable s'impose dans beaucoup de villes où on s'efforce de réduire les entrées de circulation.
Le modèle parisien, même le mauvais modèle, s'imprime dans
les villes. Et ça continue pareil.
Villes.
On voit aujourd'hui à Bordeaux, dans d'autres villes, que tout a été fait pour compliquer la circulation, pour rendre la vie des automobilistes dure, pour favoriser à tout prix les deux roues, etc. Voilà, c'est partout pareil. C'est comme ça, c'est l'histoire de France.
Et c'est vrai que autant c'est magnifique quand c'est le Paris de Haussmann ou le Paris médiéval ou le Paris, enfin tous les Paris qu'on connaît, etc. Mais est-ce que vous pensez quand même que c'est inéluctable, Benoît Dutort, ce que vous décrivez là et qui quelque part fait peur, mais enfin on le ressent, en tout cas beaucoup de gens le ressentent comme vous, est-ce que c'est inéluctable ou il y aura des moyens de l'entraver, au-delà même du facteur humain?
C'est pour l'instant, surtout c'est... C'est démesuré, c'est fanatique, c'est ça le problème. Moi, je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait moins de voitures, qu'il y ait plus de vélos, pourquoi pas, qu'on lutte pour le climat, etc. Mais là, tout d'un coup. Pendant un siècle, on a encouragé les gens à vivre et on a fait en sorte qu'ils puissent pas faire autrement que d'ailleurs que de vivre et de se déplacer avec leur voiture, etc. Et puis la ville d'Haussmann était très adaptée en plus à la circulation moderne, ça marchait bien. Oui. Et tout d'un coup, après un siècle d'évolution dans un sens, on décide en 5 ans ou en 10 ans de faire carrément marche arrière et on lance comme ça des projets qui ne sont pas dans la mesure, qui sont pas dans la prise en compte de la vie quotidienne, etc. Je veux dire, Anne Hidalgo a contribué aussi à densifier certains quartiers de Paris en faisant des constructions à des endroits qui n'auraient pas dû être construits. Mais par contre, tout d'un coup, parce qu'on est en campagne électorale, elle nous annonce qu'on va planter carrément 170 000 arbres et faire des forêts. Moi, je veux pas qu'on fasse des forêts, je veux qu'on entretienne les jardins publics.
Vous avez vu que le pont de l'Alma doit être rendu jardin.
Mais arrêtez ces slogans, ces grands machins. Entretenez les trottoirs, entretenez les jardins publics, entretenez la beauté de Paris. Faites en sorte qu'on ait toujours plaisir à se promener dans Paris. Faites en sorte qu'au lieu d'avoir simplement des caméras qui sont là pour donner des contraventions, on ait à nouveau des gens qui contrôle un petit peu la circulation dans la ville, ce qui résoudrait beaucoup des problèmes d'embouteillage, etc., etc. Soyons simples, concrets, pratiques, au service vraiment de la vie quotidienne.
Mais justement, pour au service de la vie quotidienne, ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression, c'est là comme ailleurs, là comme on parlait au début de l'émission, je parlais du gouvernement Macron et des rétropédalages au sujet de mesures, on a l'impression que c'est vrai à la mairie de Paris comme ailleurs, qu'il y a des gens, vous savez, des contrôleurs de gestion, cost-killing, comme disent les Américains, qui sont sur des tableaux Excel, et qui prennent des mesures, et qui voient rien de la ville, et qui disent, allez, on va faire ça, et ça, et ça, sans du tout voir ce qui se passe au niveau de la rue, quoi.
Et c'est exactement pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, c'est parler vraiment de ce que c'est aujourd'hui, simplement, que de se promener dans Paris, d'aller faire ses courses dans Paris, de voir la transformation des quartiers dans lesquels je vis.
Et dites-moi, vous êtes alors optimiste ou pessimiste, Benoît Dutertre, après avoir écrit ce livre, et vous êtes toujours parisien et plus que jamais, vous êtes optimiste ou pessimiste?
Écoutez, je ne suis pas très très optimiste pour ce qui concerne les élections, puisque comme je vous ai dit, une grande partie des adversaires de l'équipe actuelle a des projets qui sont à peu près les mêmes, voire pire. Donc je ne suis pas très optimiste. Par contre, je vois, je veux dire, quand je fais une tribune dans le Figaro sur la condition du piéton, ou quand je sors ce livre, le nombre de témoignages, de retours de personnes qui partagent la même chose et qui forcément, ou bien souvent, n'ont pas vraiment l'occasion de l'exprimer, ça me fait très plaisir, parce que malheureusement, d'une certaine façon, beaucoup de médias sont aussi dans le jeu de cette espèce de langue de bois du développement durable qui doit tout remplacer, tout éliminer, devenir la seule préoccupation de tout le monde et pour l'éternité. Faut se calmer un peu. Pensons que vivre dans une ville, c'est simplement aussi tous les aspects de la vie concrète.
Voilà pourquoi il faut lire le livre de Dutertre et surtout se battre, Parisien, se battre, et puis tous les autres aussi. Et
on rappelle la référence d'ailleurs de l'ouvrage de notre invité Benoît Dutertre, Les Dents de la Mer, M-A-I-R-E, Souffrance d'un piéton de Paris, publié chez Fayard. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Merci André Berkoff.